Salut Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Alors de quoi avais-tu envie de nous parler de bon matin?
Eh ben voyons, on va parler bientôt des moissons Jacqueline, hein, les moissons arrivent, le soleil revient. Et puis ça mûrit assez vite, donc les moissons d'orge et les colzins qui vont démarrer assez rapidement. D'autant plus qu'ils annoncent encore un coup de chaud pour cette fin de semaine. Donc dans beaucoup de régions, on est déjà entré dans des conditions très sèches en fait. Avec une inquiétude qui monte sur les rendements céréaliers. Vous avez peut-être déjà entendu parler, les éleveurs regardent eux aussi vers le ciel avec anxiété, pourquoi? Parce que la pousse de l'herbe ralentit, les stocks pourraient être sollicités plus tôt que prévu. Et certains redoutent déjà en fait d'alimenter leurs troupeaux plus longtemps que prévu cet été. Alors en fait, des rendements en céréales qui s'annoncent compliqués, des prix qui frémissent pour remonter doucement, mais une autre bataille s'engage, hein. Une bataille moins visible que celle du climat ou des marchés, mais qui pourrait bien peser demain sur le revenu agricole, c'est la concurrence entre l'assiette et le réservoir.
Pourquoi parle-t-on autant des agrocarburants aujourd'hui alors?
Oui, c'est bien ça ce mot-là, agrocarburant. Alors en fait, tout ça c'est parce qu'un nouveau mouvement mondial est en train de s'accélérer. Avec les tensions géopolitiques en fait au Moyen-Orient et le renchérissement du pétrole, de nombreux pays cherchent des alternatives rapides en fait aux carburants fossiles. Donc les agrocarburants à ce moment-là apparaissent alors comme une solution disponible immédiatement. Alors concrètement, en fait, c'est simple, hein, il s'agit de produire du carburant à partir de matières agricoles. Maïs, canne à sucre, huile de palme, huile végétale et parfois donc le colza de chez nous. Et le principe n'est pas nouveau, mais l'ampleur du phénomène change aujourd'hui de dimension en fait.
Et pourquoi ça concerne directement nos agriculteurs?
Alors, parce que l'énergie devient chère. Le grain, les huiles végétales et les matières agricoles prennent une autre valeur. Et en fait, elles ne servent plus seulement à nourrir les hommes ou les animaux, elles deviennent une source énergétique. Donc pour un céréalier, alors cela peut sembler être une bonne nouvelle, davantage de débouchés, davantage de tensions sur les marchés et donc potentiellement eh ben, des meilleurs prix. Mais pour un éleveur, mais il y a toujours un mais, c'est vrai, mais pour un éleveur, voilà, chez nous, dans le bocage, la lecture est un peu différente. Si les matières premières montent durablement, en fait, c'est le coût alimentaire du troupeau qui va grimper également. Et dans une année où l'herbe manque déjà, la question devient donc très concrète.
Et que disent les études publiées ces derniers jours alors?
Alors oui, on va s'appuyer sur une étude de l'ONG Transport et Environnement qui a provoqué pas mal de réactions. Elle estime que la consommation mondiale de biocarburant pourrait augmenter d'environ 30% dès 2026, jusqu'à près de 70% d'ici 2030 si les objectifs annoncés sont appliqués. Alors cette accélération serait portée notamment par l'Indonésie, l'Inde, le Brésil ou encore les États-Unis. Alors le constat de cette étude est simple. Plus on consacre de terres et de cultures à produire du carburant, plus la pression augmente sur les marchés alimentaires.
Est-ce que ça veut dire que les prix agricoles vont forcément augmenter?
Alors on ne sait jamais trop, hein. Je dirais
c'est
pas forcément.
C'est plus modéré, ouais.
Voilà. Oui. Pas forcément, mais les mécanismes quand même sont connus. C'est simple, une demande supplémentaire apparaît sur des cultures déjà tendues, donc les prix peuvent remonter. Les huiles végétales montrent déjà des signes en fait de tension depuis plusieurs mois. Et puis pour le producteur de céréales qui a subi des rendements décevants, cette remontée peut compenser une partie des pertes. Mais le paradoxe est assez cruel parce que ce qui soulage un vendeur de grains peut fragiliser donc un acheteur d'aliments et donc les éleveurs. L'agriculture française a vu souvent cette double réalité depuis bien longtemps.
Est-ce que le colza pourrait devenir le grand gagnant de cette histoire?
Le colza, on vous l'a dit, les surfaces augmentent. Le colza est évidemment au centre des discussions. C'est une culture historiquement liée au biodiesel en Europe. Donc avec des marchés énergétiques plus tendus, certains imaginent déjà un regain d'intérêt. Mais le sujet reste sensible. Davantage de valorisation énergétique peut soutenir les cours, mais cela pose aussi la question des rotations, des rotations culturelles, de la disponibilité des surfaces et de l'équilibre avec les productions alimentaires.
Et la question, les agrocarburants sont-ils vraiment mauvais pour l'environnement?
Oui, c'est un débat qui est loin d'être tranché, très sincèrement. Les défenseurs rappellent qu'ils permettent de réduire la dépense au pétrole, qui valorisent les productions agricoles et soutiennent parfois l'économie rurale. L'Union européenne continue d'ailleurs à soutenir certains biocarburants, tout en orientant davantage ses politiques vers des carburants dits de deuxième génération, issus d'huiles usagées, résidus ou procédés plus avancés. Les critiques répandent à grande échelle en fait. Les agrocarburants de première génération mobilisent terre, eau, engrais, avec parfois un bilan carbone contesté lorsqu'on intègre les changements d'usage des sols.
Et le sujet des engrais dans tout cela?
Oui, là, c'est peut-être le point le plus préoccupant. Produire plus d'agrocarburants signifie aujourd'hui produire davantage de biomasse et donc consommer davantage d'intrants. Cette analyse souligne qu'une part importante des engrais est déjà mobilisée pour ces filières dans certains pays producteurs. Et dans un contexte où les fertilisants restent sous tension, cela ajoute une couche de dépendance en fait supplémentaire. Pour les agriculteurs européens qui sortent à peine de plusieurs campagnes de flambée des coûts, le sujet n'est donc pas théorique.
Alors au fond, que faut-il retenir?
Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que les céréaliers commencent déjà à avoir peur des rendements, mais c'est une année 2026 qui est particulière. D'un côté, on a les champs qui mûrissent vite, des rendements qui inquiètent, des éleveurs qui surveillent aussi, eux, chaque millimètre de pluie. Et de l'autre, vous avez un marché mondial qui regarde désormais les hectares agricoles comme une réserve d'énergie. Et pendant longtemps, en fait, la question était comment nourrir le monde? Mais demain, il y a peut-être une autre question qui s'invite dans les fermes. Jusqu'où peut-on demander à l'agriculture de nourrir, produire de l'énergie et rester rentable en plus?
Vaste débat. Merci,
voilà.
Ludo.
Allez, bonne journée. Ciao.